Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. L'opération Barkhane, c'est à elle que nous allons nous intéresser. Ce mercredi, l'opération Barkhane qui intervient au Mali, voilà maintenant 2 ans. Lancée le 1er août 2014, l'opération Barkhane avait pour objectif de lutter contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers dans le Sahel. Avec ses 3500 hommes, c'est, dit-on, la plus grande opération militaire française en Afrique. Elle a eu à effectuer 800 opérations et patrouilles et plus de 40 missions multipartites. Elle a donc neutralisé d'ailleurs 200 terroristes et a détruit plus de 16 tonnes d'armes et de munitions. Au cours de ces différentes missions, Barkhane a perdu 7 hommes. Pourtant, l'opération Barkhane fait l'objet de pas mal de critiques de la part de certains Maliens. On va souvent jusqu'à mettre en doute sa raison d'être. Que reproche-t-on donc concrètement à Barkhane? Est-elle efficace dans l'exécution de la mission qui lui est confiée? Pourquoi l'insécurité demeure récurrente au nord malgré la présence de l'opération Barkhane? La forte France suscite, comme on le voit, beaucoup de questions. C'est sur ces questions que nous allons donc réfléchir avec nos invités au nombre de 4. C'est Daniel, journaliste écrivain, qui est donc en ligne. Nous avons Zbeti Akado, lui, il est de la société civile, est également en ligne. Nous avons ici dans ce studio Chaka Tiable Doumbia, qui est du Centre d'analyse politique et économique, et d'un moment à l'autre, est attendu. Dans ce studio, Boubacar Mintou Kone, lui, il est du Front africain des forces pour l'intégration et la solidarité dans une nouvelle Afrique. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous le disais, l'opération Barkhane a succédé à Serval, à la force Serval, le 1er août 2014. Après 2 ans d'intervention, que peut-on retenir du bilan? Combinant donc de Barkhane, nous posons la question à vous en premier lieu, Siaka Tiable Doumbia, du Centre d'analyse politique et économique.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Fomba. Bonsoir à tous les auditeurs de Studio Tamani. Eh bien, pour faire un bilan d'abord sur l'opération Barkhane, je pense qu'il va de soi qu'on fasse un petit rappel sur les missions qui sont assignées à cette opération. Ça va nous permettre de savoir où est-ce que nous en sommes concrètement. À mon avis, vous avez déjà fait l'historique. L'opération Barkhane est venue suite à l'opération Serval. Et donc, les missions qui étaient assignées à l'opération Serval étaient de stopper l'avancée des groupes terroristes vers la capitale qui était déjà à portée de main. Ensuite, et essayer de dégager, sinon de détruire les sanctuaires terroristes et rétablir une force militaire au Mali. Maintenant, après le moment de gloire de cette opération est venue par la suite l'opération Barkhane. Alors, 2 missions essentielles sont assignées à cette opération. La première est d'appuyer les forces armées des pays partenaires de la bande sahélo-sahélienne dans leur action de lutte contre le terrorisme et contre les groupes armés. Et ensuite, il s'agissait de contribuer à empêcher la reconstruction des sanctuaires terroristes. Voilà, à mon avis, les 2 missions principales qui étaient assignées à l'opération Barkhane. Maintenant, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur quel bilan nous en sommes aujourd'hui, à mon avis, il faut se dire que le bilan n'est pas glorieux, même si des efforts ont été faits. Vous avez déjà rappelé 800 tonnes de 200 bombes larguées par-ci, une vingtaine de tonnes de nitrate détruites avec des vols qui ont été effectués. Des efforts ont été faits, mais à mon avis, ces efforts sont loin d'atteindre les objectifs qui étaient assignés à cette opération.
Alors, nous avons Serge Daniel qui est en ligne. Bonsoir Serge Daniel.
Bonsoir.
Alors, dites-nous, après 24 mois de présence, Barkhane a-t-elle reçu l'essentiel?
Vous ne pouvez pas parler de Barkhane si vous ne parlez pas de Serval, chers amis. Parce qu'il faut savoir, à mon avis, d'où on vient. Le nord du Mali était occupé. Le centre du Mali allait passer sous le contrôle des djihadistes lorsque l'opération Serval a eu lieu. L'opération Serval a permis de stopper l'avancée des djihadistes, ça a été important. Maintenant, ensuite, à la fin de l'opération Serval, l'opération Serval s'est transformée en l'opération Barkhane. Je pense que la difficile mission de Barkhane, là où Barkhane n'a pas totalement réussi, c'est parce que personne n'a pu reprendre les activités de Serval au nord du Mali. Ce qui fait que Barkhane était dans tout le Sahel et pour tout le Sahel, alors que Serval, l'opération Serval était limitée dans le nord du Mali. 3 000 hommes. Tous les spécialistes vous disent que si vous voulez vraiment maîtriser la zone, il en faut 30 000. Barkhane n'a pas fait d'opération au sol, pas beaucoup en tout cas. Elle a toujours opéré à partir des avions, à partir des hélicoptères, à partir du renseignement, des opérations spéciales. Donc si Barkhane n'était pas là aujourd'hui, le nord du Mali serait pris. Mais est-ce que Barkhane a réussi? Je ne dirais pas que Barkhane a totalement réussi. Il y a toujours des insuffisances parce que il fallait plus d'hommes et il fallait plus de stratégie face à l'occupant. C'est-à-dire que les djihadistes mènent une guerre asymétrique. Ce qui a manqué aux forces internationales au nord du Mali, c'est d'utiliser les mêmes méthodes que les terroristes, c'est-à-dire la lutte asymétrique.
Alors, nous avons également en ligne Sbeti Agakado. Il est là. Sbeti Agakado, pour l'instant, n'est pas disponible. Alors, nous allons donc revenir dans ce studio et retrouver Chaka Tchebli Doumbia. Alors, Chaka, vous l'avez entendu, le bilan, d'aucuns vous diront qu'il est positif, d'autres diront que c'est négatif, mais certains diront qu'il est mitigé. Nous avons dit que Barkhane, quand même, avait comme mission de lutter contre le terrorisme, a comme mission de lutter contre le terrorisme et contre les crimes transfrontaliers. C'est Daniel le disait, si l'on compare quand même le bilan de Barkhane à celui de Serval, que diriez-vous?
Non, en fait, Barkhane, comme je l'ai dit dans mon introduction, Barkhane est venu suite à l'opération Barkhane, à l'opération Serval. Serval, à mon avis, a été une réussite parce que Serval avait pour mission d'abord de stopper ces groupes terroristes qui avaient déjà Bamako à portée de main.
Mais ça n'est pas parce que c'est dans des contextes quand même différents.
Dans des contextes différents, c'est dans des zones différentes, mais tu sais qu'il faut peut-être. La guerre à laquelle Serval a été amené à faire face était beaucoup plus lisible que la guerre avec laquelle l'opération Barkhane a aujourd'hui à faire. Peut-être qu'on va se dire que ce n'est pas un bilan positif, mais il y a un point sur lequel moi je souhaiterais miser. C'est la mission D qui était confiée, qui consistait à empêcher la reconstitution des sanctuaires terroristes. À mon avis, cette mission au moins a réussi. Même si nous avons des attaques par-ci, par-là, au moins aujourd'hui, nous n'avons pas des groupes terroristes identifiés, visibles sur le terrain. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, ils mènent encore des activités sur le terrain. Donc, l'opération Serval, à mon avis, a été une réussite et ça a été bien indexé. Il s'agissait de stopper l'avancée des groupes sadiques et ça a été stoppé. Il s'agissait également de détruire les sanctuaires terroristes. Ça a été détruit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher la reconstitution de ces sanctuaires-là? Ça a l'air de l'opération Barkhane. Mais là où, moi, à mon avis, le bilan ne peut pas être commenté de positif, c'est le soutien apporté aux pays du G5, sinon des pays les pays membres de la bande sahélo-sahélienne.
Alors, cher Daniel, nous vous retrouvons donc. Nous l'avons vu. Je sais que Barkhane, quand même, a fait pas mal de choses. Le bilan est là. Il y a des chiffres qui parlent. Mais malgré tout cela, les attaques terroristes, quand même, continuent dans le nord. L'insécurité demeure toujours. Alors, cher Daniel, il y a quand même problème.
Oui, il y a problème, parce qu'on il faut pas se voiler la face, il y a problème. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'opération Serval, les forces onusiennes n'ont pas pu prendre dans le nord du Mali le relais de l'opération Serval. Alors que Barkhane intervient, vous savez, au Mali, au Niger, jusqu'en Libye, si vous voulez. Et avec 3000 hommes, on ne peut pas faire ce job, on ne peut pas faire ce boulot. Ce qui est intéressant, en revanche, chez Barkhane, c'est que vous avez eu le démantèlement, et ça c'est quand même très important, de sanctuaires terroristes dans le nord du Mali. Vous avez eu de l'armement, vous avez eu des terroristes tués, Oumar Amara a été tué, il y a au moins six autres grandes figures ont été tués, et ça me paraît quand même important de dire sur l'opération Barkhane. Maintenant, vous savez qu'en France, par exemple, il y a des sénateurs, il y a des élus qui se demandent si cette mission effectivement est efficace. Il faut pouvoir coordonner, ça c'est mon point de vue, ça en aurait terminé, il faut pouvoir coordonner les actions de Barkhane, les actions des casques bleus de l'ONU et les actions de l'armée malienne. Et ça, on n'a pas pu le faire pour le moment sur le terrain, il faut le dire.
Alors, à présent, nous avons Sbeti Agakado de la société civile qui est en ligne. Dites-nous, monsieur Agakado, qu'est-ce que vous pensez quand même du bilan de Barkhane après 2 ans d'intervention?
Merci, Thierry Tamani. Nous sommes présentement à l'écoute. Quel sujet? Le sujet sur notre conseil de travail à l'opération Barkhane.
Alors, je crois que nous avons quelques difficultés à entendre SBT Agado. Alors, continuez, M. Agado.
Je disais donc que l'opération Barkhane depuis un certain nombre d'années. Évidemment, les Maliens sont partagés sur ce bilan. Nous sommes de ceux qui n'ont jamais voulu la présence, n'est-ce pas, d'une force étrangère après avoir refoulé la France aux indépendances. Nous n'avons jamais souhaité son retour sur notre territoire. Donc, sur ce bilan, il est...
Alors, je crois que nous allons retrouver Sbeti Agakado dans un instant. Pour l'instant, nous avons quelques difficultés avec la ligne. Nous retournons donc ici dans ce studio. Je crois que c'est Daniel est toujours en ligne. Nous allons pouvoir lui aussi le rejoindre dans un instant. Alors, Chaka, on va continuer avec vous, Chaka Tchèble Doumbia. Il y a quand même beaucoup de Maliens qui se demandent si toutefois Barkhane a véritablement la volonté d'en découdre avec les terroristes. Dans certains milieux, on évoque même une éventuelle complicité de la part de la France. Alors, ça ne vous paraît pas étrange? Après tout, la France quand même a perdu des hommes sur le terrain. Qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer un tel ressentiment?
Non, je pense qu'il faut peut-être situer ce ressentiment à des niveaux. D'abord, le champ de l'opération par rapport là où se trouve la majorité de la population. C'est que le champ de l'opération est essentiellement éloigné. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le bilan qu'on donne sur ces opérations, c'est le bilan que l'armée française elle-même fournit. Il est extrêmement difficile pour les autres de vérifier ces différentes informations sur le terrain. Ce qui fait que, à la limite, on se sent indifférent par rapport à ce que l'opération Barkhane fait sur cette partie du territoire du Mali. Mais, aujourd'hui, faudrait-il qu'on mette fin à cette opération? À mon avis, il faut encore réintroduire les missions qui sont confiées à cette opération. Le soutien aux différentes armées de la bande sahélo-sahélienne. C'est-à-dire que ce soutien a fait la coordination entre les différentes armées a fait défaut. Je suis d'accord avec ça. Et là où je vais même plus loin, c'est que ici, sur cette même antenne, je crois avoir discuté avec Serge Daniel sur l'utilité du G5. Moi, à mon avis, le G5 manque un partenaire clair qui est l'Algérie. En matière de lutte contre le terrorisme aujourd'hui, vous souhaiterez lutter efficacement contre le terrorisme sur la bande sahélo-sahélienne. Vous ne vous inspirez pas de l'expérience algérienne, vous ne vous inspirez pas du soutien de l'Algérie. Moi, je vois plutôt le G5 comme étant un cadre institutionnel, mais qui sur le terrain ne produit pas efficacement d'effets.
Alors, c'est Daniel, vous aussi, vous l'avez certainement remarqué, il y a beaucoup de Maliens quand même qui critiquent de façon très sévère Barkhane. C'est une situation que vous comprenez?
Écoutez, les critiques, on les entend, les critiques. Il faut dire que les critiques datent de l'opération, de la fin de l'opération Serval. Pourquoi? Parce que pour le citoyen lambda a toujours porté, n'a jamais compris pourquoi les autres localités, c'est-à-dire Gao, Tombouctou, ont été libérés et que l'armée malienne ne soit pas allée avec l'armée française sur le terrain à Kidal. Je pense que ça, c'est toujours un caillou dans la chaussure qui est resté. Parce que les citoyens, les Maliens, quand même les responsables politiques, ne comprennent pas ce qui s'est passé, ne comprennent pas ce qui s'est passé et estiment que si aujourd'hui la situation à Kidal est ce qu'elle est, c'est à cause de cette situation. Donc, il y a une explication des textes. Mais je vais vous dire, vous ne voyez pas l'armée française faire un deal avec des terroristes. Vous avez des soldats français qui sont en train de mourir pour le Mali, qui sont en train de mourir pour le Sahel, mais je vois très très mal l'armée française à lui faire des deals avec des terroristes. Je ne le crois pas. J'ai entendu parler tout à l'heure du G5. Dès que l'Algérie va rentrer dans le G5, puisqu'on est en train de parler de moyens de lutte efficaces contre le terrorisme, dès que l'Algérie va rentrer dans le G5, le G5 va cesser d'exister. Et justement, c'est pour contourner l'Algérie qu'on est en train de faire le G5. Parce qu'on a compris une chose fondamentale, c'est que l'Algérie n'envoie pas ses troupes au-delà de cette, en dehors de cette territoire, de son territoire, à cause, dit-on, de la loi fondamentale ou de certains principes. Le problème, c'est que si vous voulez lutter efficacement contre le terrorisme, il faut que tous les pays luttent ensemble contre le terrorisme et sur tous les territoires. Donc moi, je dis plutôt bravo au G5 parce que le G5 permet au moins de reposer la question sécuritaire de la sous-région. Parce que le CEMOC, qui pour moi est un petit machin qui était drivé par les Algériens et qui comprenait quand même la Mauritanie, le Mali et le Niger, n'a jamais mené une opération commune dans le désert. Alors que le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir se mouvoir sur tous les territoires, parce que le matin, les terroristes sont sur le territoire malien, le soir, ils sont au Niger, le lendemain, ils sont de l'autre côté. Maintenant, par souci technique, je souhaitais dire au troisième interlocuteur qu'on n'arrive pas à voir, le problème qu'il a, c'est que son poste radio est non loin de là où il est. Donc, évidemment, ça grésille.
Alors, nous lui ferons donc la remarque. Studio Tamani, la suite 2, se débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Barkhane au Mali depuis 2 ans, c'est le sujet que nous abordons dans les grands dialogues de ce mercredi. Alors, Chaka, nous l'avons dit, il y a des Maliens quand même qui ne sont pas satisfaits par rapport à ce que fait Barkhane au nord du Mali. Nous l'avons constaté avec vous qu'il y a même eu récemment, il y a eu quand même une manifestation à Paris, les Maliens de France qui ont donc manifesté et qui reprochent à la France sa duplicité. Ça, est-ce que y a-t-il un problème de communication, un manque de communication entre peut-être Barkhane et les Maliens d'une façon générale?
Bon, et bien avant de revenir sur cette question, un petit mot sur le G5, comme Serge vient d'intervenir tout de suite. Moi, je me dis, il y a un point qu'il faut se dire. Bien avant 2014, puisque le point de départ du G5, ça date de février 2014, bien avant ça, bien avant même la fin du régime Mamadou Toumani Touré, des États étaient en discussion pour mettre en place une force transnationale. Et comme il a dit, des difficultés se sont posées. L'Algérie était réticente parce qu'il n'allait pas permettre à d'autres forces d'aller opérer sur le terrain. Il y avait des difficultés, je suis d'accord avec ça. Mais moi, je commence à lire maintenant dans la presse ou même à lire de la part de certains officiels français que le G5, parce que quand le colonel Pirenne dit nous sommes arrivés il y a 100 ans, nous sommes partis il y a 50 ans, il nous a rappelé il y a 2 ans, nous sommes de retour ici avec eux et derrière. Et comme si l'initiative du G5, il faut le reconnaître, on peut peut-être afficher que c'est la volonté affichée des chefs d'État qui ont mis en place le G5 et que voilà, la France est là pour les soutenir. Mais ce qu'il ne faut pas se nier, c'est que c'est la France qui commandite. Et tant que nous-mêmes, en tant qu'État africain, nous n'avons pas jugé nécessaire de prendre à bras le corps la question de la lutte contre le terrorisme, nous ne pouvons pas parvenir à un résultat. Tous les résultats auxquels nous allons parvenir, ça va être plutôt des résultats sur le plan institutionnel. Mais l'efficacité sur le terrain, on va tarder à juger le résultat. Ça, c'est la première question. Maintenant, est-ce qu'il y a un déficit de communication de la part d'opérations? Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bilans que vous venez de fournir, ce sont des bilans qui sont d'abord fournis par l'armée française. Maintenant, qu'est-ce qui s'est pas sur le terrain. Moi, je pense que si vous êtes là pour que l'État du Mali puisse avoir sa souveraineté, l'intégralité de sa souveraineté, il faut travailler également dans ce sens, dans le cadre d'une collaboration entre les forces armées maliennes, entre les forces de l'aménagement qui opèrent sur le terrain. C'est à ce prix que nous pouvons dire que les efforts, les activités qui sont menées par cette opération sur le terrain se font de façon transparente. Mais si tel n'est pas le cas, et que les informations qui sont fournies, c'est les informations fournis par les acteurs et même de la guerre, difficile par vous et par nous et par quel autre média d'être sur le terrain et de rapporter concrètement ce qui se passe. À mon avis, avec toutes ces considérations politiques, toutes ces discriminations qui se passent d'autre côté, c'est extrêmement difficile à ce que tout le monde fasse confiance à cette opération.
Alors, Zbeti Agado est-il en ligne? Je crois qu'il est bien. Alors, Monsieur Akado, nous allons vous retrouver à présent. Nous l'avons dit, il y a beaucoup de Maliens qui critiquent sévèrement Barkhane. Est-ce que les Maliens savent justement ce qui se fait exactement sur le terrain, le travail mené par Barkhane? Est-ce que Barkhane communique suffisamment sur ce qu'elle fait comme boulot sur le terrain? Alors, Monsieur Agado, vous avez peut-être votre poste au radio qui est juste à côté de vous. Nous allons vous demander de l'éloigner un tout petit peu.
Je n'ai pas de poste avec moi, mais peut-être le téléviseur, oui.
Ah. Alors, éloignez-vous donc un peu.
Je disais que ça, c'est une mission de France. N'est-ce pas? Je n'ai pas tenu de informer les Maliens sur ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me suivez? Allô?
Nous allons certainement vous retrouver prochainement.
Est-ce que je me fais entendre, non?
Allez-y, il semble que ça s'améliore.
Je disais donc que Barkhane est une mission de la France. La France est venue se replacer en position de force, elle est venue le gouvernement rende inutile nos armées et secours. Donc elle n'a pas de compte à rendre aux Maliens.
Zbeïti Agakado, on ne va pas oublier qu'on a fait quand même appel à la France avant tout.
Allô?
Je dis que vous quand dites... vous dites que la France est venue comme si elle venait s'imposer, je dis qu'on va quand même se souvenir qu'elle a été appelée.
Justement, quand je vais en arriver, quand je dis que pour les populations, elle est pratiquement inutile, pour les pouvoirs en place, qu'il s'agisse des pouvoirs au Mali, au Tchad, au Niger, un peu partout, pour ces pouvoirs-là, c'est un casque de protection quand même, il ne faut pas l'oublier. Qu'elle est là, elle a rendu nos armées totalement inefficaces et elle protège les pouvoirs en place. Aucun de nos dirigeants aujourd'hui n'est inquiété par un coup d'État ni par quoi que ce soit. Donc ils sont en place, ils préparent des mandats, ils vont se faire réélire, etc. Donc ils ont bel et bien raison de les appeler. Imaginez Kunda et les autres qui les ont appelés. Et tous ces pouvoirs-là qui ont amené le pays dans les tréfonds que nous connaissons aujourd'hui se trouvent aujourd'hui autour du Béga. Ils sont tous là. C'est comme si c'est nous les Maliens qui sommes responsables de l'insécurité dans laquelle on s'est installé. On nous fait oublier qu'ils sont les premiers responsables. Donc ils sont, Barkhane est la protection de ces pouvoirs-là. Et pour terminer peut-être, je voudrais dire seulement que les Français sont en train de réussir une recolonisation de l'Afrique. Et c'est bien sûr à notre détriment. Sinon, l'attaque de Nampala de l'autre jour et la plume de Bakan n'est pas efficace, c'est qu'elle ne servira à rien pour ce pays-là. Au contraire, elle servira toujours les intérêts, n'est-ce pas, des ennemis. Moi, quand j'entendais quelqu'un dire est-ce qu'elle n'est pas complice des terroristes, j'ai dit oui. Si elle est avec en Sardine, si elle est avec le HPS, si elle est avec les groupes armés aujourd'hui avec lesquels elle partage des méchouis, c'est qu'elle est avec les terroristes parce qu'il n'y a aucune limite, il n'y a aucune frontière entre ces groupes rebelles-là et les terroristes. Il ne faut pas l'oublier. C'est des frères, c'est des gens qui travaillent ensemble. Et tout se passe dans le dos, n'est-ce pas, du Mali. Tout se passe comme si elle est là pour nous mettre dans une situation où nous aurons toujours besoin, n'est-ce pas, d'une aide extérieure pour se sauver. Et on ne se sauvera pas tant que, encore une fois, nos autorités ou sinon le peuple ne prendra ses responsabilités pour exiger carrément son départ. Parce qu'on sait quand même que les attaques se sont multipliées et contre les populations et contre notre armée. Et tout cela nous atteste quand même que c'est une force qui n'est pas venue nous aider à nous tirer d'affaire. Au contraire, on est interdit aujourd'hui d'utiliser des avions pour notre sécurité. Et ça, c'est une catastrophe.
Sœur Daniel, vous venez d'entendre les propos de Zbeïti Agakado, des propos suffisamment quand même sévères. Alors, une réaction?
C'est ça le principe de la démocratie. La démocratie, c'est de permettre à tout le monde de dire ce qu'il pense, à chacun de ce qu'il pense. Et moi, je ne parle pas du tout ce point de vue que je viens d'entendre. D'abord, les Français, l'armée française est arrivée parce que le Mali a demandé. Le Mali a demandé de façon pressante que les soldats français viennent ici pour défendre l'intégrité territoriale. Ça sert à rien. Quand j'entends dire que les Français, l'armée française partage le Missouri avec des groupes terroristes, ça me fait sourire. Vous voyez qu'au même moment, c'est en train de tuer les soldats français. Je ne sais pas comment ils vont partir de Missouri. Mais c'est des questions de logique. Moi, je ne suis pas un dictateur. Il y a dans Barkhane ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et ce qui a fonctionné, je le répète, c'est que si aujourd'hui Barkhane a pu démanteler des structures terroristes, si Barkhane a pu démanteler, a pu arrêter ce qui a dit fédéralistes, la lutte est incomplète. Elle est incomplète essentiellement parce que, comme je l'ai dit, personne n'a pu prendre, aucune force militaire n'a pu prendre dans le nord du Mali la relève de l'opération Serval. Et c'est ça qui a plombé ensuite les actions qu'on aura de Barkhane. Parce que Barkhane, contrairement à Serval, est établi pour intervenir dans tout le Sahel, dans plusieurs pays. Et toutes les espèces du cassement dans le nord du Mali, dans le Sahel, c'est pas 3 millions.
je crois que...
Pardon, il y a un problème technique.
Allez, continuez, chers, continuez.
Technique, voilà la réalité. Maintenant, il faut réorganiser le dispositif dans le nord du Mali essentiellement en trois forces. Les forces Barkhane et les forces Mali.
On a quelques soucis côté technique. Je crois que nous allons retrouver Serge dans un instant dans de meilleures conditions. Alors, nous retrouvons Siaka Tchèblé de Doumbia qui est donc présent dans ce studio. Alors, Siaka, dites-nous, sur le terrain, il y a quand même Barkhane, il y a l'AMINUSMA, il y a l'EFAMA. Ces trois structures, est-ce qu'elles collaborent suffisamment?
Non, en fait, non. À mon avis, c'est là où même on peut situer l'échec même de cette opération. Parce que l'opération Barkhane, quand vous regardez les moyens dont dispose cette opération, vous avez déjà rappelé plus de 3000 hommes, nous avons une vingtaine d'hélicoptères, 6 avions de chasse, 3 drones avec une dizaine d'avions de transport, avec une vingtaine de véhicules. Donc quand on regarde tous ces moyens qui sont déployés sur le terrain, et tenez-vous bien par an, l'opération Barkhane coûte à peu près 1 milliard de francs, c'est 600 millions d'euros. Donc quand on regarde tout ça et qu'on voit qu'il y a des attaques qui sont récurrentes, l'attaque de Nampala que disait tout de suite Spedi. Donc quand on regarde tous ces actions qui sont sur le terrain, d'emblée on parvient au résultat qui est le fait qu'il n'y a pas de coopération entre les différentes forces qui sévissent sur le nord du territoire.
Alors, j'espère que Sbeti Agagado est à présent en ligne. Alors, Monsieur Agado, dites-nous, ces trois structures qui sont présentes au nord, au Barkhane, le FAMA et l'AMINUSMA, est-ce que vous pensez que si ces forces-là collaboraient suffisamment, la situation d'insécurité au nord du pays pourra s'améliorer? Pensez-vous?
Évidemment qu'il y a une maldonne. L'armée du Mali, les FAMA ne sont pas dans le jeu. Elles jouent juste le rôle de dissuasion au niveau des villes. Sinon, elles ne peuvent pas sortir des villes. Seul l'AMINUSMA et puis la Barkhane se meuvent sur le terrain comme ils veulent. Donc il y a certainement une collaboration entre ces deux structures-là.
Sbeti, on va rappeler que quelquefois, ces structures mènent quand même, comment on l'appelle, des patrouilles ensemble, des patrouilles mixtes, des patrouilles entre...
Écoutez, tout ça là, c'est du tape à l'œil. Il ne faut pas nous dire qu'il y a des patrouilles. Quand des djihadistes se préparent pour attaquer Nampala 3 jours à l'avance, tout le monde est au courant. Ils ont le temps d'attaquer, ils tapent, ils tuent les gens, ils vont, ils reviennent pendant 2 ou 3 jours. Quelles sont ces patrouilles-là? Je vous en prie. Il ne faut pas quand même nous prendre comme des enfants. Nous, on est au courant de ce qui se passe. Il n'y a rien. Il y a des simulations, en réalité, qui ne donne satisfaction à aucune population. Entre Gundam et Tombouctou, entre Biré et Gundam, dans toutes ces régions-là, les voleurs, les bandits, les djihadistes se promènent comme ils veulent. Personne n'a jamais été arrêté. Il a fallu que des gens se meurent l'autre jour à Nampala pour qu'on fasse semblant d'aller arrêter peut-être un berger-peul qui se promène par-ci, par-là, on le ramasse pour dire que c'est le chef des djihadistes. Pendant qu'on savait là où il se trouve. Quelles sont ces patrouilles-là? Il n'y a pas de patrouille. Pour nous, il n'y a aucune collaboration positive, en tout cas dans le sens de donner satisfaction aux populations. Cette collaboration-là n'existe pas. Nous voyons une armée française qui est là et qui surveille les intérêts de la France, qui nous empêche d'aller à Kidal, qu'on a, peut-être ça va déplaire à certains Maliens, Kidal est totalement, en tout cas, perdu pour le Mali à cette date. Et au-delà de Kidal, ce sont les régions de Tombouctou et Gao qui sont en train d'être livrées, n'est-ce pas, clé en main, aux groupes qui ne sont ni plus ni moins que les frères, les cousins de ces djihadistes-là. Ils le savent, nous le savons tous. Donc, pour nous, Barkhane est venu encore une fois donner la main à l'AMINUSMA qui est quand même un conglomérat, n'est-ce pas, de soldats africains à la solde de la France toujours, et qui nous surveille, qui nous gère de façon à faire aboutir le chemin que la France a installé depuis très longtemps, on le sait. Voilà un peu, nous, la vision de la société civile, et nous l'avons dit en son temps. Quand j'entends Serge Daniel évoquer que c'est le Mali qui a fait appel à Barkhane et à la MINUSMA, le Mali ne se limite pas seulement au pouvoir. Le Mali, c'est moi aussi, c'est les autres, c'est les citoyens du Mali. C'est la société civile qui a crié haut et fort sur tous les toits que nous ne voulons pas de la France, nous ne voulons pas de Barkhane, nous ne voulons pas de ces gens-là. Et parce que ce qu'ils vont faire est très clair, ils vont tout simplement nous remettre les chaînes, n'est-ce pas, dans les pieds et dans les mains, et c'est ce qui est en train de nous arriver. Donc les pouvoirs ne sont jamais à l'écoute des populations, malheureusement. Même l'accord sur lequel nous sommes en train de surfer aujourd'hui en est la preuve. Les pouvoirs se sont engagés là-dedans et les populations ne sont pas engagées là-dedans. Malheureusement, en Afrique, c'est les pouvoirs qui collaborent avec l'Occident et nous autres, nous faisons les frais.
Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Les deux ans de l'opération Barkhane au Mali, c'est le sujet du grand dialogue de ce soir. À présent, je pense que la liaison est rétablie avec Sœur Danielle. Alors, Sœur Danielle, vous l'avez entendu, et on semblait comprendre que l'aménagement et Barkhane et les FAMA comprenaient qu'il fallait beaucoup plus de collaboration. Alors, nous venons d'entendre qu'il n'y a pas de collaboration. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je ne partage pas du tout cet avis. En fait, je ne voulais pas faire un ping-pong hein, entre l'interlocuteur précédent intervenant et moi. C'est un grand dialogue, donc c'est tout le monde qui prend la parole. Je ne vais pas faire un ping-pong, mais je vais quand même dire deux choses essentielles. Si l'armée malienne avait la possibilité de régler la question sécuritaire sur le territoire national, les armées étrangères ne seraient pas venues. On ne le dit pas assez, malheureusement. Et ça peut arriver à tout le monde, parce que ce qui est arrivé au Mali, moi j'ai vécu ça dès le départ, quand tout le monde, souvenez-vous, quand tout le monde disait « oui, le MNLA est en train d'attaquer l'armée malienne », j'étais l'un des rares à dire « ce n'est pas le MNLA qui attaque l'armée malienne, c'est le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad et d'autres groupes armés, dont des groupes djihadistes à l'époque. » Ce qui est arrivé au Mali, peu de pays peuvent le supporter en termes de violence d'affrontement. Donc, ce qui est arrivé au Mali, c'était nécessaire que la communauté internationale intervienne pour aider le Mali. Maintenant, dans cette aide, on peut discuter de ce qui a marché, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, la coordination entre Barkhane, les troupes onusiennes et l'armée malienne, je l'ai déjà dit, il faut souhaiter qu'il y ait une meilleure collaboration. Il y a des patrouilles mixtes, contrairement à ce que j'ai entendu, il y a bel et bien des patrouilles mixtes qui ont été menées, qui sont menées sur le terrain. Ce n'est pas suffisant. On ne coordonne pas, à mon avis, assez les choses, notamment en matière de renseignement. Mais Nampala, quand j'entendais tout à l'heure dire que Nampala, trois jours avant, les gens étaient informés. Mais si les gens étaient informés, c'était la responsabilité de qui? C'était d'abord la responsabilité des forces nationales. On ne peut pas tout attendre de l'étranger, si vous voulez. Il faut que les responsabilités soient situées. Mais encore une fois, la coordination n'est pas parfaite. La coordination et la collaboration entre Barkhane, des forces onusiennes et l'armée malienne doit être perfectible, doit être affinée. C'est mon point de vue, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas.
Votre réaction, vous souhaitez réagir sur la table?
Oui, moi je pense que cette coordination n'est que de façade sur le terrain. On ne voit pas concrètement c'est à quoi ça débouche. Avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme insécurité, vous avez parlé de l'attaque de l'Ampala, vous parlez également de l'attaque. Moi je me dis, il y a une chose qu'il faut se dire peut-être. L'aménagement en tant que aménagement, lorsque nous essayons de lire l'état-major de l'aménagement, c'est-à-dire la composition de cet état-major, voir, moi je me dis, est-ce que cet aménagement même existe en dehors de l'opération Barkhane? Peut-être entre les deux, l'opération Barkhane peut se servir de l'aménagement pour avoir un cutu sur ce qu'ils veulent. Maintenant, entre l'aménagement, à l'intérieur même de l'aménagement, la collaboration reste à désirer entre les différentes unités de l'aménagement. Entre l'aménagement et les FAMA, ça reste à désirer. Et entre l'opération Barkhane, il faut reconnaître, et les FAMA également, je peux dire que la collaboration... Tout ce que vous voyez à la télé, comme l'a dit l'autre, là, vous voyez à la télé des patrouilles mixtes, moi je me dis que ce sont vraiment des actions, des coups de médias, mais sur le terrain, ça ne donne pas concrètement. Moi je viens de rappeler tout de suite les moyens dont dispose l'opération Barkhane sur le terrain. Avec ces moyens-là, je pense que ne serait-ce que le partage de renseignements, le partage d'informations, on peut éviter pas mal de choses qui s'est vu actuellement sur le territoire.
Osbeti Agado est allé. Alors Osbeti, vous comme beaucoup d'autres Maliens, vous critiquez beaucoup Barkhane et l'aménagement. Mais cette question, après tout, si Barkhane n'était pas là, qu'est-ce qui serait-il passé?
Mais elle est là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Des morts tous les jours, des agressions tous les jours, rien ne marche. On allait peut-être se défendre mieux. Si vous voyez même qu'on est anesthésié, c'est parce qu'on pense que tonton Hollande est arrivé avec tous les moyens de bord, et puis c'est le complexe africain toujours qui continue. Pour nous, c'est les Français qui peuvent, c'est les Français qui ont les moyens. Malheureusement, on le voit chez eux là-bas. Ils n'arrivent pas à contrer le terrorisme. Ce n'est pas nous qu'ils vont protéger contre les terroristes. Il ne faut pas se leurrer. Donc, on allait se défendre. Et malheureusement, leur venue même nous a porté préjudice, parce que tout se passe aujourd'hui comme si il y a la mission de sécurisation est donnée à ces gens-là. Et toute chose qui donne libre cours, n'est-ce pas, au pouvoir d'utiliser les budgets alloués à l'armée et autres, à d'autres fins. On l'a vu par rapport au détournement, aux affaires liées aux chaussettes, aux affaires liées aux tenues, à toutes les affaires, n'est-ce pas, liées à l'armée. C'est des détournements de milliards qui sont en cours aujourd'hui. Donc si elle n'était pas venue, ces détournements-là n'allaient pas avoir lieu, et on allait certainement envisager, n'est-ce pas, sécuriser nos villes contre ces bandits-là. Et malheureusement, on ne nous fera jamais oublier que ce sont que les Occidentaux qui ont armé ces gens-là par les millions d'euros, n'est-ce pas, donnés par rapport aux otages, par n'est-ce pas, l'arsenal de la Libye, par les accointances entre le pouvoir, n'est-ce pas, de Sarkozy et le MNLA. C'est toutes ces choses-là qui ont créé la déstabilisation du Mali pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, simuler et intervenir pour nous protéger. Malheureusement, ils ne nous protégeront jamais. Ils protègent leurs intérêts, et tant que ils pourront nous mettre dans une situation d'affamés, n'est-ce pas, de quémandeurs ou je ne sais pas moi, de nécessité, ils vont continuer à créer le trouble chez nous. Il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous avons les moyens de nous battre. Nous n'avons pas les moyens d'éradiquer le terrorisme comme eux-mêmes ils n'ont pas les moyens. Donc nous allons continuer à prendre des stratégies pour nous défendre tout simplement. Moi, je ne pense pas que leur venue pourra en tout cas nous empêcher d'avoir des problèmes dans le futur. Malheureusement, les problèmes s'accumulent et ils vont s'accumuler. Avec ces autorités intérimaires que nous voyons aujourd'hui, vous allez voir, les règlements de compte ont déjà commencé entre Gatcha et la SEMA, entre des chefs, entre tout le Nord qui va s'envoler, malheureusement. Ils continuent à penser qu'ils vont se mettre dans le Nord là-bas, exploiter les richesses, n'est-ce pas, de nos régions et se tranquilliser derrière. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le temps nous donnera raison. Nous avons dit en son temps que nous sommes faibles, mais nous sommes un peuple. Nous pouvons, si nos autorités l'avaient voulu, si elles n'avaient pas, si elles n'avaient rien à se reprocher, elles allaient écouter le peuple, elles allaient écouter les citoyens du Mali, et nous avons les ressorts nécessaires pour nous organiser et contre-attaquer, tout simplement.
Cher Daniel, les critiques fusent d'un peu partout, c'est vrai, au sujet du Barkhane, mais les chiffres sont là, les résultats sont vraiment encourageants. Mais cela dit, est-ce qu'il n'y a pas à revoir quelque part?
Il faut forcément revoir des copies, mais je vais vous dire, les critiques fusent partout. C'est normal, chacun libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il entend, comment il comprend les choses. C'est ça aussi la démocratie. Mais peut-être que pour cette émission, on aurait même pu inviter un représentant officiel de Barkhane pour se défendre ou pour expliquer. Il y a des résultats. Quoi qu'on dise, il y a des résultats sur le terrain. La situation actuelle n'est pas du tout facile. Pour d'autres raisons, il y a, et je l'avais dit dès le départ, il y a d'autres dimensions de la crise qu'on n'a pas pris en compte. Vous avez la dimension tribale de la crise. J'ai entendu parler du Gatia et de par exemple de la FEMA tout à l'heure. Ça, c'est la dimension tribale de la crise qu'on n'a pas pris en compte. Il y aura d'autres problèmes parce qu'on parle des immigrants.
camarades aujourd'hui qui sont à Kidal, mais vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, vous avez des imrades de la région qu'on retrouve, de la région de Gao, qui sont sous Gao, qui sont en train de se réunir pour définir une position. Donc il y a plusieurs problèmes, il y a de nombreux problèmes. C'est évident que ce n'est pas terminé. On est très très loin de la paix pour le moment dans le monde nord du Mali. De très loin de la paix, mais il y a de petits pas vers la paix. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose de très important.
Et écoutez, moi je pense que pour ce qui concerne les questions tribales, les questions entre les différentes tribus, à mon avis, ça ne relève pas de la mission de l'opération Barkhane. L'opération Barkhane a pour mission d'appuyer les forces armées des pays partenaires pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est la première mission. Et la seconde mission, c'était de détruire les sanctuaires des terroristes là. Et donc, pour ce qui se passe entre ces différentes tribus, je pense que ça revient aux groupes armés, aux FAMA de lutter. Mais comment? Avec le soutien de l'opération Barkhane. Or, ce soutien-là, ces informations, le partage des renseignements, cette coordination, ça n'existe pas. Moi, je pose autrement la question. Quand vous avez posé la question de si l'opération Barkhane n'était pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pose autrement la question. Qu'est-ce que nous devons envisager pour la postérité de l'opération Barkhane? Parce que c'est ça qui compte aujourd'hui. La question de lutte contre le terrorisme est une question qui ne se terminera pas demain. La fin de la lutte, ce n'est pas pour demain ni pour après-demain. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer avec nous-mêmes, sinon dans un cadre régional ou sous-régional, de prendre à bras le corps cette question de lutte contre le terrorisme en se passant totalement de ces forces étrangères-là.
Zbeti Agadou, comment voyez-vous la suite de la mission de Barkhane au Mali?
Barkhane a des beaux jours devant elle. Tant que nous sous-estimerons nos capacités, et malheureusement c'est le cas, nous sous-estimons totalement nos capacités de faire face. Et quelque part, n'oubliez pas que derrière cette incapacité-là se cachent les intérêts, n'est-ce pas, des Européens. Il faut pas penser que les Français vont croiser les bras et nous laisser nous organiser dans le G5 ou dans l'Union africaine. Ça ne se fera pas parce qu'il y a toujours parmi nous des tops, ou bien je ne sais pas, des gens qui sont prêts à rompre les rangs, n'est-ce pas, pour que ces organisations-là ne voient pas le jour. C'est pour dire que Barkhane s'est installée. Et tant qu'elle fera... Elle va donner une protection à nos pouvoirs. Elle va continuer à être là. Et je ne suis pas sûr qu'elle sera efficace. Je dis encore une fois, quand on ne peut pas se protéger soi-même, on ne peut pas protéger les autres. La France ne peut pas se protéger là où elle est aujourd'hui.
Merci,
ce n'est pas nous qu'elle va protéger.
Merci, Betty
Agakado. C'est pour revenir un peu, allô.
Merci. Alors, c'est Daniel, le mot de la fin. Pour une minute. Alors, nous n'avons ni Sir Daniel, ni Zbeti Agadou. Alors, puisque vous êtes en ligne, continuez donc, monsieur Agadou. Alors, Sir Daniel, je crois qu'on a pu rétablir la ligne avec vous. Le mot de la fin avec vous.
Alors, j'ai entendu tout à l'heure parler des questions tribales. Votre interlocuteur qui parlait des questions tribales ne connaît pas les questions tribales mieux que moi. Je n'ai jamais dit que c'était Barkhane qui devait régler les problèmes tribales, les problèmes tribaux, entre les tribus. Je disais tout simplement que ces problèmes, les problèmes entre les communautés, compliquent davantage la crise. Moi, je vais vous donner mon sentiment. En France, actuellement, il y a un débat sur le maintien des troupes françaises dans le Sahel. On va voir la décision qui sera prise en France. Mais si les autorités maliennes ou les autorités sahéliennes veulent par exemple demander le départ, les troupes françaises aussi, elles peuvent le demander en ce moment, pour voir ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'optimiste béat. Je n'ai pas un optimiste béat, mais je pense que la situation va se stabiliser forcément à un moment. Ça, c'est mon point de vue, parce que même l'ONU dont on parle, les forces onusiennes dont on parle, heureusement qu'elles sont là. Vous avez des gens qui parlent parce qu'ils ont envie de parler. Vous avez des gens qui parlent parce qu'ils ont le micro facile. Si l'ONU n'était pas là aujourd'hui, où est-ce que nous serons? Si Barkhane n'était pas là, où est-ce que nous serons? Il y a des insuffisances, c'est évident. Mais il ne faut pas dire qu'il faut noyer tout, il faut jeter tout, parce que tout n'est pas bon. Je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Ça fait une quinzaine d'années que je suis ce dossier et je reste persuadé que nous avons besoin de l'ONU dans le nord du Mali. Nous avons besoin de Barkhane dans le Sahel. Le problème, c'est de pouvoir coordonner les actions de manière efficace avec les forces armées maliennes qui, pour le moment,
merci beaucoup, c'est Daniel.
À niveau.
Alors, merci pour votre disponibilité. C'est donc la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver demain pour un autre sujet. À demain.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dumondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.